Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 86. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'adage dit « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et si la réalité, c'était qu'ensemble on va plus vite et plus loin. Mon invité d'aujourd'hui a travaillé pendant 8 ans dans le gross hacking aux États-Unis et elle a pu remarquer à quel point les entreprises américaines collaboraient. Et surtout, elle a vu que ces partenariats les menaient très vite, très loin. De retour en France, elle se rend compte que le co-marketing est loin d'être aussi développé et elle se fait mission d'aider les entreprises à travailler ensemble parce qu'elle est persuadée que c'est un système vertueux pour tout le monde. Au lieu de nous mettre en compétition, il nous fait unir nos forces. Pour simplifier la tâche des marques, elle a créé Richmaker, qui est, comme elle le dit, le mythique des entreprises, son algorithme met en relation les entreprises qui auraient eh bien, un intérêt à travailler ensemble. J'aime beaucoup la philosophie derrière cette pratique, j'ai donc demandé à Caroline Mignot de venir nous en dire plus et nous expliquer comment mettre en place une campagne de co-marketing. Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle, je suis ravie d'être ici, merci pour l'invite.
Écoute, je suis très très contente de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle finalement pas si souvent que ça, on en discutait en off juste avant d'enregistrer, c'est le sujet du co-marketing, c'est-à-dire du partenariat. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, tout ce grand thème qu'est le co-marketing. Juste avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Avec plaisir. Alors, je m'appelle Caroline, je viens d'avoir 30 ans et du coup, je suis devenue entrepreneur, pas tellement par vocation, mais parce que j'étais une marketeuse un petit peu désillusionnée de me rendre compte que les départements marketing étaient devenus un petit peu des salles de marché, que la publicité était devenue un réflexe un peu automatique. Et du coup, après 10 ans à rêver de ce beau projet d'une plateforme qui permet aux marques de faire des collabs facilement, je me suis dit, si personne le fait, ce sera moi, je vais développer mon projet. Et du coup, je lance aujourd'hui un SaaS, un logiciel en ligne. Et je parle énormément du coup de co-marketing, c'est de la déformation professionnelle.
Génial. Bon, bah cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est, en tout cas pour toi, parce que bon, il peut y avoir plein de définitions différentes, mais qu'est-ce que c'est pour toi le co-marketing ? Je suis pas sûre que les gens qui nous écoutent aient quelque chose de très très clair derrière ce terme-là.
C'est vrai. Et d'ailleurs, le premier réflexe, c'est certainement du rejet. C'est de se dire encore, ils nous collent encore un buzzword. Vraiment, les marketeurs, ils ne sont jamais fatigués. Et en fait, j'ai été confrontée à un problème quand j'ai lancé mon projet. C'est que personne ne comprenait le terme partenariat parce qu'on met trop de choses différentes dedans. Pour certains, c'est une façon de parler de leurs clients, leurs meilleurs clients. C'est une façon un peu diplomatique de parler de ses clients. Partenariat, on comprend pas trop. Est-ce que c'est par rapport au marketing? Est-ce que c'est plus global? Est-ce que c'est de la fusac? Enfin, c'était un terme un peu fourre-tout. Et je me suis dit, en fait, au lieu d'essayer d'y apporter des clarifications, je vais plutôt choisir un autre terme et y amener plus de transparence. Et j'ai beaucoup aimé le mot co-marketing. parce qu'il y a le code de collectif commun. C'est pour moi, c'est il exprime très bien ce que c'est en fait que le partenariat. C'est à la fois en fait des actions communes, mais ça peut être aussi des actions croisées. En tout cas, voilà, il y a cette idée d'équité qui m'a tout de suite beaucoup parlé et que je trouvais plus sexy que le mot partenariat. Donc souvent, pour définir un peu, je dis le partenariat, du coup, c'est voilà une action, une alliance entre deux marques ou plus. Et puis, le partenariat, il se décline en actions de co-marketing, qui sont des actions marketing qu'on fait à plusieurs, soit en croisé, soit en commun.
Ah d'accord, donc c'est en fait deux marques, je décode, hein, c'est deux marques qui vont décider de bosser ensemble, deux marques qui sont qui ont peut-être une audience commune, c'est ça l'idée, et puis qui vont avoir une action marketing soit au même moment, c'est-à-dire, j'essaie de trouver un exemple, Nutella avec Coca-Cola, je dis des bêtises, Nutella avec une marque de café, Nutella va mieux que le café.
Ou du pain de mie.
Ou du pain de mie, voilà. Nutella avec Harris, et ils vont faire une campagne ensemble. Donc ça, c'est un co-marketing en même temps. Ou alors quelque chose de croisé, une marque qui va à un moment donné faire une communication qui englobe quelqu'un d'autre, et puis cette autre marque va le faire de son côté également, c'est ça ?
Exactement. En fait, tu as soit une marque qui en recommande une autre, finalement, et il y a plein de mécanismes derrière, on va avoir l'occasion d'en parler ensemble, soit effectivement, c'est une fusion entre deux marques. Là, ce serait le co-branding. Donc oui, ce serait typiquement, je ne sais pas si tu sais, les Nutella, tu as des petits sticks. Ouais. Justement, tu avais des petits Nutella emportés avec des petits sticks. Donc ça, ce serait un co-branding, par exemple. C'est, tu vois, c'est une offre croisée, une offre commune. En fait, on va le voir, il y a plusieurs mécanismes à l'œuvre. Soit tu crées quelque chose de commun, soit tu fais un échange, donc tu croises, soit parfois c'est que d'un côté.
D'accord.
Il y a plein de façons de procéder.
Super. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, pour toi, n'est pas largement utilisé ou est difficilement utilisé. C'est quoi, en fait, la problématique derrière tout ça ?
En fait, après avoir passé 8 ans aux US, je me suis rendu compte que le partenariat était à la fois des signaux très forts, à la fois extrêmement efficaces, et à la fois que c'était un peu un privilège d'initié, un privilège d'élite, et que si tu savais pas en faire, bah malheureusement, tu étais abonné aux partenariats pas efficaces, qui sont une énorme perte de temps, d'énergie, et du coup, bah souvent, un peu des coups d'épée dans l'eau. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage que les marques qui fassent bien du partenariat, elles sont en hyper croissance, et on en a tous en tête, Airbnb, Uber, là récemment, le partenariat avec Cityscoot, les Monoprix. En fait, quand on pense partenariat, on sait que c'est l'apanage de très belles boîtes qui ont trouvé en fait des clés pour réussir. Et finalement, bah, c'est des boîtes qui ont du réseau, qui ont de l'argent et qui ont le savoir-faire en interne, qui sont accompagnées d'agences. Et puis pour les autres, il reste pas grand-chose. Et ce qui reste souvent pour les autres, bah, c'est la publicité. Et moi, la publicité, je trouve que c'est pas un schéma vertueux. On met les boîtes en compétition les unes contre les autres et c'est la régalade pour les régies, donc les tierces parties. Moi, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de créer un autre modèle qui base la croissance sur la collaboration et non plus sur la compétition.
Alors, je t'arrête juste une seconde pour expliquer un petit peu aux gens. Effectivement, quand tu parles de la publicité et tu dis que c'est un système de compétition, j'en parlais il y a, je ne sais plus, 2 ou 3 épisodes sur la pub, sur les Facebook Ads. En fait, le principe, c'est le principe des enchères. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent communiquer sur une audience définie à un moment donné, on ne peut pas mettre 15 personnes, 15 marques en même temps. Donc, en fait, il va y avoir des enchères. Donc, eh bien, on va payer plus cher ou moins cher selon la demande, c'est l'offre et la demande, en fait, sa publicité. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que le principe de la publicité tel qu'il est fait en ligne, notamment par Facebook, par Google, etc., eh bien, c'est un principe qui met en compétition, finalement, les entreprises qui veulent parler à une même audience. Et donc, ce n'est pas vertueux parce que, finalement, ça n'apporte pas un meilleur résultat parce qu'on paye cher, c'est juste qu'on est plus en compétition.
Exactement. Et mon point aussi, c'est que la collaboration, c'est prouvé, c'est le meilleur modèle de croissance. En tout cas, si tu te bases sur la biologie et sur cette bonne vieille planète Terre qui a presque 4 milliards d'années, bah en fait, les espèces qui ont le plus grandi, qui ont le plus prospéré, qui se sont le plus développées, ce sont pas des espèces qui étaient dominantes de base, c'est des espèces qui ont collaboré. Donc en fait, la collaboration, c'est un vrai modèle qui fonctionne, sauf qu'aujourd'hui, il est moins intéressant à développer que la compétition.
Ah, c'est fou. Mais c'est vrai que quand tu le dis, ça paraît juste logique. Même, tu vois, quand tu fais un brainstorming, moi, je brainstorm souvent, je travaille toute seule. Donc, je brainstorm effectivement souvent toute seule. Mais la réalité, et je le sais pour avoir travaillé en équipe plein de fois et durant de nombreuses années, il y a beaucoup plus d'idées qui sortent. Non pas parce que tu es plusieurs individus les uns à côté des autres et que tu vas cumuler les idées, mais parce que l'idée de quelqu'un d'autre va faire rebondir, va créer une autre idée chez toi, etc. Et donc, d'être à plusieurs, on crée beaucoup, beaucoup plus. Du coup, tu me disais là tout à l'heure, le co-marketing, ce partenariat de marque, c'est quelque chose qui est fait par toutes ces grandes marques que tu citais, notamment Uber, etc. Et c'est un truc qui est faisable pour toi facilement, simplement, pour des petites entreprises, voire des indépendants ou pas?
Tout à fait. En fait, le problème rencontré, c'est que le partenariat met longtemps à se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de point de rencontre entre l'offre et la demande. Donc, si tu n'as pas un réseau ou une attractivité, comme ces grosses boîtes de rêve qui n'ont pas de problème pour trouver des partenaires ou des offres alléchantes, si tu n'es pas un gros, si tu as un petit poisson, bah, tu as intérêt à avoir de la chance. Donc, c'est des rencontres de machines à café, c'est des rencontres de réseautage, c'est des rencontres de hasard. Et en fait, l'idée de Richmaker, c'est de dire on laisse plus la place au hasard, on se base sur un algorithme et en fait, on match les boîtes selon leurs besoins. Donc, on est un peu un mythique, non pas un Tinder, parce que vous consultez les pages profils des partenaires, leurs offres, vous voyez en une seconde, en fait, où est-ce que se dispatche leur audience. Parce que ça, c'est des choses que... C'est le point de départ du partenariat, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, souvent, et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit ça part de l'audience. Mais ça, c'est déjà malheureusement une première idée néfaste, c'est que si tu te bases sur l'audience, tu penses pas à la valeur ajoutée. Mmh. Et notre travail de marketeur, c'est avant tout la valeur avant de valider l'audience. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux développer pour ton business? Et ça, en fait... Bah, mine de rien, le hasard, la machine à café, elle peut pas t'apporter comme ça, te servir un partenaire sur un plateau. Donc, il faut beaucoup de méthodologie et des outils.
Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je crois que tu as une espèce de méthode en trois points qui va nous permettre justement, si on n'a pas tout ce réseau, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour identifier un bon partenaire stratégique avec qui on pourrait bosser? Comment est-ce qu'on pourrait faire?
Tu me fais plaisir, je pense que tu es allé voir ma vidéo, il y a pas, pour le coup ma chaîne YouTube n'a pas vraiment décollé, il faut dire ce qui est, et du coup je suis très contente, je me dis j'ai une vue en plus. Effectivement, j'ai mis au point une méthode qui, j'ai beaucoup de très bons retours dessus, en tout cas moi elle m'a servi pendant 8 ans. L'idée en fait c'est de faire 3 colonnes. Et alors attention, hein, c'est pas une méthode imbattable, je vous garantis pas des résultats incroyables, mais en fait si vous voulez créer une stratégie de partenariat, c'est une méthode avérée pour vraiment dégrossir le trait. Et je vous garantis que, je vous dis pas que vous allez avoir l'idée de génie du partenariat idéal, mais je vous garantis que vous allez faire un bond de géant dans votre vision du partenariat. Donc, dans la première colonne, vous allez dresser, en fait, toutes les marques qui ont une audience affinitaire avec la vôtre.
Donc, d'accord, c'est-à-dire une audience proche de la nôtre, c'est ça?
Exactement. Où se trouve votre communauté? Par exemple, toi Estelle, tu sais que ta communauté qui écoute le podcast du marketing, tu vas savoir que tu as environ 80% peut-être, bon, tu vois, je vais peut-être dire des bêtises parce
que vas-y.
On connaît pas forcément l'audience des autres. 80% d'entrepreneurs, 20% de marketeurs grands comptes et peut-être 10% d'indépendants.
Bah, c'est... Oh, ouais, non, tu y es pas. On est plus sûr, je pense, 60% indépendants, 35% marketeurs et le reste en étudiants.
Moi, je pense que de toute façon, j'ai mal fait mon 10 parce que j'ai fait 80-20. Je me suis basée.
Il y a plus que 100%.
Ouais.
J'ai une grosse audience, c'est pour ça.
C'est ça. Une audience qui est à fond en plus, qui est très enflammée, elle est à 110%. Mais pour le coup, où se trouve ton audience, c'est aussi si vous avez une marque de bijoux. Vous savez que vous avez une audience plutôt citadine, donc vous vous dites où est-ce qu'elle va mon audience? Peut-être qu'elle a un Vélib, peut-être qu'elle prend le City Scoot, peut-être qu'elle prend le métro, puis peut-être qu'elle est flexitarienne, peut-être. Enfin, il faut que vous détectiez des usages corollaires, comme on dit, et que vous suiviez un peu votre utilisateur ou votre client, selon si vous êtes en B2B et B2C. Et donc, dans cette première colonne, vous allez jeter pêle-mêle, toutes les marques, toutes les entreprises qui ont une audience du coup affinitaire avec la vôtre.
Je te coupe une demi-seconde parce que là, c'est à moi que tu fais plaisir, Caroline. Donc, pour connaître tout ça, il faut connaître quoi? Son persona.
Oui.
Et je parle du persona. Donc, ça se vérifie. Je parle du persona à tous les épisodes du podcast du marketing. C'était juste mon petit clin d'œil. Donc, le persona est vraiment important.
Le pattern est respecté. Ouais. Check. Excellent. Dans cette deuxième colonne, on a le culture fit. Et le culture fit, c'est que quelque part, il faut que vous ayez une adéquation en termes de vision, valeur, process. Ce n'est pas que des mots un peu bullshit qui font plaisir aux communicants. C'est une réalité parce que le partenariat, il va se construire dans l'opérationnel. L'opérationnel, c'est le moment où vous allez main dans le cambouis. Et même si vous avez un super projet, que ça répond bien, que l'audience est contente, vous offrez de la valeur ajoutée, et ben finalement, si vous n'avez pas la même façon de travailler, vous risquez la chute avec votre partenaire, en tout cas, des malentendus, des mauvaises ambiances, aller au travail avec la boule au ventre, faire des erreurs bêtes parce que vous stressez. Donc, c'est important de valider un culture fit. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes la Redoute et que vous faites pas d'Angora, vous savez que dans cette colonne numéro 2, il y aura pas les acteurs de la colonne numéro 1 qui font de la fourrure ou de l'angora. Voilà, l'idée c'est...
Est-ce que ton culture fit, du coup, tu peux le rejoindre au... En fait, c'est tes valeurs. C'est t'assurer que tes valeurs sont en ligne avec les valeurs du partenaire, c'est ça?
Dans culture fit, moi, je mets vraiment vision, valeur et process. Ça va aussi être, tu vois, moi, typiquement, je fais des partenariats avec des incubateurs. Autant dans ma colonne numéro 1, j'ai BPI France. Autant je sais que moi j'ai besoin d'une certaine vélocité qui fait que aujourd'hui j'ai pas du tout envie de construire un partenariat sur 7 mois avec 15 interlocuteurs chez BPI France. Je préfère avancer avec des School Labs, des Scalesia, tu vois. Donc ouais. Pour moi le process c'est aussi voilà, si vous avez envie d'être extrêmement véloce ou si vous êtes une grosse structure avec plein de process, n'allez pas vous mettre avec une petite start-up où vous savez qu'ils sont dans l'urgence de créer quelque chose. Donc pour moi ça compte aussi pour la réussite opérationnelle.
Super.
Et ton troisième colonne, la dernière colonne, c'est les ressources. Et du coup, les ressources, là, en fait, c'est est-ce que ce partenaire, encore une fois, hein, c'est un tableau qui n'a vertu que d'être pragmatique, il va vous apporter des leviers qui vous complètent ou vous renforcent. Un exemple tout bête, si tu décides de te lancer sur YouTube et que c'est dans ton objectif de l'année, tu ne peux pas aller vers un partenaire qui, en fait, va pas avoir soit, encore une fois, on met plein de choses derrière YouTube, un super speaker, ça veut dire qu'il va t'apporter une ressource, soit une communauté, soit ça peut être aussi une infrastructure. Tu vois, c'est aussi large que ça, finalement, les ressources, pour moi, c'est de plusieurs ordres. Mais il faut, en fait, que ça remplisse ce critère. Donc, pour récapituler, vous partez de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ou développer? Est-ce que vous voulez faire de l'acquisition? Est-ce que vous voulez faire de la notoriété? Ensuite, vous dressez, du coup, les audiences affinitaires à qui, en fait, finalement, qui est dans votre écosystème? C'est simplement ça que ça veut dire. Colonne 1. Vous balancez dans la colonne 2 tous ceux qui, en plus, ont un fit de culture parfait, donc vision, valeur, process. Ça remplit ces trois cases. Et dans la colonne 3, qui est-ce qui a des leviers qui vous complètent ou vous renforcent? Et ça va être des réseaux sociaux, une belle communauté, un bon speaker, un savoir-faire, une boîte qui fait des super vidéos. Et en fait, normalement, dans la colonne numéro 3, vous avez des acteurs qui déchirent et vous vous dites, peut-être j'ai un aha moment, ça veut dire peut-être j'ai une petite ampoule au-dessus de la tête et je me dis, ah tiens, j'avais pas pensé à ça.
Et alors, question là qui me vient en t'écoutant, tes trois colonnes, donc tu avances de gauche à droite, hein, en fait, tu commences avec la une, tu t'enlèves certaines personnes sur la deux et etc. sur la trois. Comment est-ce que tu fais justement pour check out? Est-ce que tu le fais d'instinct parce que tu te dis, je reprends ton exemple de la BPI, on n'a rien contre la BPI, mais d'un point de vue process, tu te dis non, moi je vais pas fitter avec la BPI, ou est-ce que tu les contactes et puis tu commences à discuter avec eux pour essayer de comprendre si ça va fitter entre vous? Comment est-ce que tu fonctionnes?
Honnêtement, là, dans le cadre du petit tableau, normalement, vous avez une... Enfin, à vue de nez, vous êtes capable de savoir si ça peut le faire ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est une grosse équipe par rapport à vous? Et honnêtement, ça, c'est... Moi, je sais que c'est un critère qui m'est propre. J'ai pas envie, en lancement de projet, de travailler avec une grosse structure parce que je sais que ça va me freiner. Peut-être que vous avez envie de bosser avec un grand groupe, hein. Donc, c'est pas des critères qui sont... En fait, le culture fit, c'est vos critères à vous, mais c'est quelque part des critères qui vont conditionner la réussite opérationnelle de votre projet. Donc, peut-être que c'est... On fera pas de fourrure. Peut-être que c'est, on fait que des projets à impact. Peut-être que c'est, on veut bosser qu'avec des partenaires qui ont un cycle de vie de partenariat de 5 mois maximum. Tu vois, tu mets ce que tu veux dans la culture finalement.
Et toi, finalement, ces critères-là, tu les comprends assez d'instinct, assez simplement. Tu les vois, c'est des critères relativement évidents. Donc, ça va assez vite finalement à faire cette colonne et cette liste de partenaires potentiels. Ah ouais, donc super simple à faire. Et une fois que tu as ta liste de partenaires potentiels, Comment tu fais là? Tu les contactes comme ça en direct? Comment ça marche?
Alors, justement, c'est marrant que tu en parles parce que souvent, le frein principal, les gens me disent, le partenaire n'a pas répondu après un email. Et souvent, une métaphore que j'utilise, enfin, je fais souvent le parallèle avec la vente. Et en fait, je dis souvent aux marques ou aux entreprises, quand vous allez chercher un client, la moyenne pour convertir, c'est 5 points de touche. Quand vous allez chercher un partenaire, vous allez chercher potentiellement des milliers de clients. Enfin, en tout cas, on vous le souhaite parce qu'on ne vise pas un partenaire qui rapporte moins que des milliers de leads, des milliers de vues ou des milliers d'achats, selon votre objectif. Et du coup, pour moi, ça me semble évident qu'il faut se donner à minima 1000 fois plus de mal. Et du coup, dans la prospection d'un partenaire, pour moi, il faut au minimum engager le double d'effort que pour aller chercher un client, parce que vous n'allez pas chercher un client, vous allez en chercher 1000. Ça peut valoir le coup, en tout cas, de passer par plusieurs interlocuteurs, mais c'est pénible, Estelle. Moi, c'est pour ça justement que j'ai créé Richmaker. Il y a souvent un ping-pong. Tu contactes une personne. En fait, la personne va dire « Ah non, faut parler à Nathalie. » Nathalie, elle dit « Mais c'est Jean-Marie qui s'occupe de ça. Jean-Marie, j'ai jamais fait ça. Nathalie, t'as dit ça. » Donc, en fait, t'as du mal parfois à avoir l'interlocuteur privilégié. Et après, il faut négocier son partenariat. Et cette étape-là aussi, j'avais un problème. En gros, je me rendais compte que mes marques, elles matchaient sur Richmaker. Et après, elles me disaient, soit c'était des petites boîtes, elles me disaient, j'ai rien à offrir. Soit c'était la plupart des boîtes, parce qu'on est des Français, on a tout le temps peur de se faire avoir. Elles me disaient, mais en fait, j'ai peur que ce soit pas win-win. J'ai peur. Ça, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est la peur la plus commune en partenariat. Se faire avoir.
Oui, c'est soit j'ai peur de me faire avoir parce que je vais me faire bouffer parce qu'en face, il est super gros et que donc voilà. Ou alors, à l'inverse, on se dit, tu vois, on peut se dire aussi l'inverse, on peut se dire, mais je suis toute petite face à la redoute, je vais pas oser leur demander d'argent parce que vraiment, déjà, c'est la redoute, quoi, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas simple de se positionner, je suis d'accord.
Bah, finalement, j'ai l'impression qu'on est un peu, et c'est très français, on est un peu jamais content parfois. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit. Quand tu bosses avec un gros, tu te dis, il va t'écraser. Quand tu bosses avec un petit, tu te dis, il l'utilise.
C'est ça.
Donc, on n'en finit pas. Mais donc, l'idée, c'est de pouvoir un petit peu, à minima, standardiser combien vaut ton audience. Donc, moi, j'ai mis un outil gratuit qui est basé sur le Earned Media Value. Et en fait, ça, c'est justement en comparaison à la publicité. Combien vaut ton audience en organique, c'est-à-dire en non payant? Et les marques, pour moi, sont comme des influenceurs. Aux États-Unis, à partir de 1000 followers, t'as un influenceur qui tu veux bosser avec moi? Très bien. Voilà mon media kit. Je fais tant d'impressions par poste. Si tu veux bosser avec moi, ça coûte tant. Je te mets en avant ici, ici. En fait, ils ont tout compris parce qu'ils ont normé.
Eh ouais. Oui, comme ça, c'est plus simple. Au moins, les choses sont claires, sont dites, et on se pose pas de questions.
Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur parce que tu as une norme. Il n'y a pas de perte d'efficacité parce que tu as un standard. Et surtout, à partir du moment où tu as normé et standardisé, tu peux automatiser. Et ça, c'est pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est là où vraiment le partenariat, il gagne, il monte en compétence. C'est quand tu arrives en fait à dire, voilà, bah moi, mon partenariat, réduire pour moi l'échelle sur Richmaker d'un partenariat de 6-7 mois, mais tu sais, même parfois un an de négociation à genre 2-3 jours. Moi, je veux que ça soit actionnable.
Eh ouais. Et c'est quoi d'ailleurs? Combien de temps ça dure? C'est quoi le cycle de vie d'un partenariat? Combien de temps comment ça marche?
Honnêtement, ça dépend. Moi, j'ai recensé 9 types de co-marketing. Donc, tu peux avoir des échanges de visibilité. Alors ça, tu vois, cycle de vie. Demain, tu fais un échange sur une newsletter avec Aline de The Bee Boost. Bah, tu vois, c'est ultra facilement actionnable. À côté de ça, peut-être que vous allez vous dire, et si on faisait plutôt une co-offre, donc un co-branding, et si on faisait un bundle de formation?
Aline, si tu nous écoutes, je veux bien faire un bundle de formation.
Et du coup, tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du co-contenu, donc peut-être que vous allez faire des articles invités. En fait, tu vois à quel point un partenariat, ça peut se satellitariser. Et en fait, tu peux le densifier, multiplier les points de touche. Peut-être que vous allez faire un jeu concours pour le lancer. Et en fait, finalement, tu rajoutes des briques élémentaires. Et plus tu rajoutes des briques, plus, bah, comme une campagne marketing, plus c'est efficace.
Ah bah,
il faut
génial.
En fait penser à le densifier pour pas faire des coups d'épée dans l'eau. Moi, je dis souvent aux marques, faites pas 10 partenariats avec 10 partenaires différents. Essayez de faire un partenariat avec un partenaire et après de satellitariser pour faire quelque chose qui a vraiment du sens, qui crée de la valeur et de la confiance.
Ah, génial. Écoute, merci franchement Caroline, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on parle, tu nous as déjà donné plein de trucs à regarder sur le co-marketing. Je vais essayer de résumer en quelques phrases tout ce que tu nous as dit. Je pense que je vais en laisser de côté, donc vous réécouterez l'épisode si j'en oublie. Mais en gros, pour faire simple, le co-marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat, mais c'est un partenariat vraiment entre deux marques qui vont soit travailler ensemble, se mettre ensemble pour créer une nouvelle offre, soit répondre leur offre l'une l'autre, ou même dans un seul sens d'ailleurs, pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher le co-marketing? Parce qu'en fait, ça va nous aider de façon presque exponentielle, ou en tout cas très très forte, à construire cette croissance, finalement bien plus que si on construit la croissance chacun de notre côté. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? Puis tu le disais, je trouve ton raisonnement intéressant vis-à-vis de la publicité. La publicité, notamment la publicité digitale, elle a un gros défaut, c'est qu'elle nous met en concurrence les uns avec les autres, ce qui fait qu'en fait, on paye plus cher finalement juste parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent communiquer. Alors que là, on est plusieurs à vouloir communiquer, au lieu d'être en concurrence, on se met ensemble et on construit encore plus. Donc, je trouve le système vraiment ultra vertueux, super intéressant. Et alors, je te disais, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ce fameux partenaire? Tu me disais que, d'abord, il faut pas se décourager. On va commencer par ça, hein. C'est pas forcément si simple. Il faut mettre de l'énergie dedans. Et tu disais, on va pas chercher juste un partenaire, on va chercher potentiellement des milliers de clients. Donc, il faut mettre encore plus d'énergie que l'énergie qu'on va mettre dans la recherche d'un seul client. Tu disais, mettons au moins le double. Effectivement, si j'en récupère 1000, je veux bien en mettre le double, ouais. Voire même beaucoup plus d'ailleurs. Donc, en tout cas, il faut pas se décourager, il faut mettre de l'énergie dedans. Toi, t'as un outil, je mettrai le lien hein, de Richmaker dans les notes de l'épisode, mais t'as un outil qui simplifie, qui facilite la rencontre entre deux partenaires, qu'on soit gros ou qu'on soit petite d'ailleurs, peu importe. Ensuite, tu disais qu'il faut aussi savoir se valoriser. Moi, je trouve que c'est un élément très important. Et notamment, j'ai envie de le dire, pardon, hein, je le remets toujours un peu à la sauce féminine, mais notamment quand on est une femme et qu'on travaille, par exemple, comme indépendant, c'est souvent un peu différent quand on est derrière une marque. Mais quand on est indépendant, bien souvent, c'est pas vrai que pour les femmes d'ailleurs, mais je crois que ça l'est encore peut-être plus pour les femmes, on a des difficultés à se mettre en avant et à se donner son véritable prix juste. Je sais pas si c'est le mot prix qu'il faut mettre, mais en tout cas, sa véritable valeur. Mmh. Toi, tu as un outil qui en plus est gratuit et qui nous permet de façon ultra normée, un peu voilà simple, carré, de dire combien notre audience peut nous rapporter finalement pour pouvoir se positionner plus simplement. Et puis ce que tu dis, c'est que le cycle de vie d'un partenariat, en fait finalement il reste à inventer, c'est-à-dire que à chaque partenariat, à chacun de créer le partenariat qu'on veut, donc c'est vraiment une page blanche et puis on fait bien ce qu'on veut finalement, tout est possible avec le partenariat.
C'est exactement ça, c'est très bien résumé. Et effectivement, un partenariat réussi, c'est tout simplement un partenariat qui s'itère, qui se reproduit. Et il n'y a pas vraiment de partenariat raté, parce que en fait, si vous faites un partenariat qui marche pas, vous allez avoir des clés de réponse, des apprentissages. Du coup, si je peux vous laisser sur cette dernière bonne pratique, ne faites pas l'autruche. C'est une pratique très courante. Quand finalement, on a un partenariat ou qui s'est pas passé aussi bien qu'on le souhaitait, les résultats sont pas au rendez-vous, on a tendance à l'enterrer et à ne pas faire de retour d'expérience. En fait, c'est une avancée majeure puisque vous avez découvert des choses qui marchaient pas, vous avez testé quelque chose. Donc, commencez déjà à standardiser, à dresser la feuille de route. Alors ça, à tel moment, ça a marché, ça a pas marché. Et en fait, pour aller voir votre prochain partenaire, vous avez déjà un début de feuille de route. Donc voilà, si je peux vous laisser sur ce petit tips, surtout, on se décourage pas. Le jeu en vaut la chandelle.
Super, j'adore. On finit là-dessus. Le jeu en vaut la chandelle. Si on veut en savoir un peu plus, Caroline, sur les partenariats, sur tout ton travail, sur tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi?
Alors, sur Clubhouse, à part pendant le mois d'août, on reprend au mois de septembre, sur Clubhouse tous les matins, 9h-9h30, une room dédiée aux problèmes d'acquisition, si vous voulez avoir des petites astuces pour aller chercher des clients plus efficacement. Donc, vous pouvez nous suivre sur Clubhouse avec Fabien Ferreira. Et moi, je suis très active sur LinkedIn, c'est ma seconde maison, donc Caroline Mignot. Et si vous avez la moindre question, je me ferai un bonheur de vous répondre.
Eh ben super, je mettrai évidemment comme d'habitude tous les liens dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à contacter Caroline. Merci beaucoup Caroline.
Merci Estelle, je suis trop contente.
À très bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. J'aime beaucoup ce principe de collaboration entre les marques. Merci encore Caroline d'avoir partagé avec nous tes bons conseils pour construire une campagne de co-marketing. Je suis sûre qu'on va être nombreuses à intégrer ça à notre prochain plan marketing. Si cet épisode vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, le meilleur moyen, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Pas besoin d'être sur Apple pour le faire, c'est accessible depuis un PC ou un Android. Ça aidera plein de gens à découvrir le podcast du marketing et moi, eh bien, ça me dira que ce podcast vous plaît et qu'il faut que je continue à vous produire des nouveaux épisodes. Je vous dis à très vite.